2600 ans après, l'Odyssée du Gyptis. Première partie. En l'an 600 avant Jésus-Christ, sur les collines du Marseille Vert, un village, Ségobrige, vit l'arrivée des Phocéens. Partant de sa cité grecque de Phocée, en Asie mineure, Protis suivit les indications de son père Euxène, qui avait découvert un grand fleuve où établir de nouveaux comptoirs, le Rhône. 150 hommes composaient l'équipage de ces puissants navires. Ils accostèrent sur la côte le jour où Nannos, le roi de ces terres, organisait un banquet pour le mariage de sa fille. Les Phocéens se rendirent à ce mariage. La coutume voulait que la femme qui allait se marier tendît une coupe d'eau à son futur époux. Gyptis, la fille de Nannos, remit sa coupe à Protis. Alors Nannos leur accorda la calanque du Lacidon pour s'installer. Avec d'autres unions mixtes, les Phocéens s'installèrent durablement en ces lieux qu'ils nommèrent Massalia. Leurs enfants construirent des bateaux pour la pêche et le commerce. En 1993, les archéologues du centre Camille-Julien trouvèrent deux de ces bateaux sur le chantier de la fouille de la place Jules Verne, dans la calanque du Lacidon devenu après 2600 ans d'histoire, vieux port de Marseille. Les épaves Jules Verne 7 et Jules Verne 9 sont aujourd'hui visibles au musée d'histoire de Marseille. En 2013, en collaboration avec les charpentiers de marine des chantiers Borg de Marseille, les archéologues construisirent une réplique de l'épave Jules Verne 9, baptisée Gyptis. Le bateau navigue depuis l'hiver 2013 en rade de Marseille dans les alentours. Embarqué à bord pour une croisière de 5 jours, de 7 à Marseille via Arles.
Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 du matin ce lundi 22 avril 2014. On est dans les rues de 7. Très jolie ville, très joli port avec ses canaux, ses jolies façades méditerranéennes. Et puis on s'apprête à rejoindre le Gyptis pour un grand voyage, un voyage assez particulier puisqu'on va monter à bord d'un bateau qui est la réplique d'un bateau qui a été construit à Massalia il y a 2600 ans. Julien, comment tu sens ce grand départ ce matin ?
Je le sens en retard. Allez, on trotte là.
Alors Julien, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est venu faire le Gyptis ce week-end à 7 ?
On est venu présenter le bateau, puisqu'il y avait ce festival des vieux gréements là, qui s'appelle Escale à 7. Donc avec les autres, on a paradé.
Tel de fier coq sur votre vieille coque.
Donc on ramait un peu tous les jours pour se montrer. On a sorti la voile, une voile carrée, comme celle des bateaux grecs d'antique, disons. Voilà, on a fait un peu d'effet au milieu des énormes bateaux russes qui font 120 mètres de long au moins, quelque chose comme ça, et des beaux marins russes.
Je crois que l'ambiance de cette, c'était quelque chose qui t'a assez plu au cours de ce week-end.
Ouais, c'est une belle ville. Là, on voit les canaux de cette, ces petits bateaux amarrés sous les maisons. C'est assez joli. C'est une ville, très spéciale qui ressemble pas tellement à d'autres villes, à Montpellier, tout ça. Moi, j'aurais bien vu ici une capitale, j'aurais fait une capitale de cette ville. Avec toutes ces voies d'eau, ça aurait fait une belle capitale.
Et sinon, question météo, vous n'avez pas été trop gâté ce week-end ?
Ah oui,
et puis.
Bah, question météo, ça a été assez contrasté, on a eu un beau jour vendredi, samedi c'était la tempête et l'averse de temps en temps des grosses averses, il faisait très froid. Non, c'était dimanche ça, j'ai tout décalé, et lundi c'était pas mal, hier c'était bien.
Ouais. Et puis là on sait pas à quelle sauce on va se faire manger, puisque c'est bien nuageux ce matin, avec, avec un petit postillon pour l'instant qui nous tombe dessus. Bon, on va voir comment ça évolue. En tout cas, ce matin on part pour une grosse étape direction Aigues-Mortes avec, on espère, de la voile, avec de la rame aussi. C'est le début d'un voyage de retour à Marseille pour le Gyptis, donc avec une étape à Aigues-Mortes, ensuite une étape à Saint-Gilles sur les bords du Rhône, pour aller jusqu'à Arles où le bateau sera présenté au musée de l'Art antique avec une conférence, et ensuite descente du Rhône jusqu'à Fos-sur-Mer avant une rentrée sur Marseille où on ira soit directement soit avec une petite étape sur la Côte Bleue.
Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage.
Et Julien, comment ça se passe pour toi depuis le départ de cette?
Ça va, j'ai eu un moment où j'avais un peu la nausée, mais c'est passé.
Notre capitaine, Pierre, qui est juste derrière.
Barbe noire.
Barbe noire, ouais, c'est vrai que ça lui va bien, barbe noire.
Ouais. Ouais. Un petit mot sur la navigation de ce matin. Ouais. Bah, c'est tout pourri. Et on avait un petit vent de face avec un petit clapot qui était juste pas du tout idéal pour la navigation d'aujourd'hui, puisque c'est assez long pour la taille du bateau, vu qu'on n'a pas de moteur. Donc voilà, on a pris le canal du Rhône à 7. On est en train de passer dans les temps de Langrille. On va passer vers l'abbaye de Villeneuve-les-Maglones. Ça devait ressembler à ça dans l'Antiquité. Donc faudra s'imaginer, voilà, les Grecs et les Étrusques.
Mais le canal, il n'existait pas.
Ben non, le canal n'existait pas vraiment, mais par contre, l'aspect lagunaire de toute cette zone existait. Cette qu'on vient de partir, là, qui n'est plus une île, avant c'était une île. Pareil pour l'abbaye de Villeneuve-les-Maglones, où on va arriver, c'était une île aussi. Et on sait qu'il y a des petits établissements, voilà, d'époque de l'âge du bronze, puis aussi de l'âge du fer, qui sont à gauche et à droite dans la lagune, donc voilà, on se met aussi un peu en condition.
Une, pousse la barre. Non, pousse.
Ça sent trop, les gars.
Bon, après une bonne journée de navigation, on a eu la pluie, on a eu le soleil, on a eu des chouettes moments, on a vu beaucoup d'oiseaux, des flamants roses, des hérons. Et puis on a vu des chouettes péniches aussi. On est passé par Aigues-Mortes. On a un peu crâné devant les remparts d'Aigues-Mortes. Et là, on se retrouve au bivouac pour cette première soirée, juste toujours sur le canal du Rhône à 7.
On est déjà arrivé à bon port. On est bien installé. On n'a pas fait la belle navigation comme on aurait souhaité le faire. Mais bon,
c'est-à-dire la belle navigation, est-ce que tu peux nous préciser?
Bah, une belle navigation, il faut s'imaginer un beau soleil de printemps. On part de 7, le soleil vient à peine de se lever, parce qu'on était sur le quai, il faisait encore nuit, quasiment. Et là, on pourrait imaginer, voilà, hisser la voile et partir avec un petit vent de 3 quarts arrière, là, pas très fort. Et puis on traverse le golfe du Lion. On rentre au Gros du Roi et puis nous voilà partis à la rame pour Aigues-Mortes. Ça aurait été l'idéal, mais bon, ce matin il pleuvait, il y avait du clapot, le vent était contre nous. Les anciens, ils auraient certainement attendu, sauf que nous on est un peu pressés. Donc on a emprunté le chemin ornithologique et on est allé voir les oiseaux dans les temps. Et on en a vu pas mal et je crois que finalement c'était une chouette journée. Et puis on, voilà, on est arrivé à bon port, on a eu un bon dîner, on est content.
Julien va nous lire un petit passage de l'Odyssée, de Homère.
Voilà, c'est le passage, le chant 5 avec Calypso. Quand parut Aurore aux doigts de Rose, qui naît de grand matin, Ulysse revêtut tout aussitôt manteau et tunique. Et la nymphe se couvrit d'un grand châle blanc comme argent, fin et gracieux. Elle se passa autour de la hanche une belle ceinture dorée et se jeta sur la tête un voile tombant. Puis elle prépara le départ d'Ulysse au grand cœur. Elle lui donna une grande cognée de bronze bien en main, affilée des deux côtés et pourvue d'un très beau manche d'olivier bien ajusté. Elle lui donna ensuite une doloire bien polie. Puis elle prit les devants vers l'extrémité de l'île où de grands arbres avaient poussé. Aune peuplier peint, peint haut comme le ciel, bois depuis longtemps sans sève, très sec, qui lui serait de légers flotteurs. Quand Calypso, l'auguste déesse, lui montrait l'endroit où ces grands arbres avaient poussé, elle s'en revint vers sa demeure. Lui se mit à couper des planches, et son travail fut vite terminé. Il abattit 20 arbres en tout, les dégrossit avec le bronze, les polit savamment, et les dressa au cordeau. Cependant, Calypso, l'auguste déesse, lui avait apporté des tarières. Il fora donc tous ses bois, les ajusta ensemble, et à coups de marteau, unit les pièces du bâtiment par cheville et moise. Aux dimensions d'un bon expert en charpente, qu'un bon expert en charpente donna la coque d'un large vaisseau de charge, Ulysse se bâtit son radeau, et il dressa le gaillard qu'il couvrit d'ais serré, et pour finir, il fit un revêtement de longues planches. Il planta un mât auquel s'ajustait une vergue. Il se fit en outre une rame de gouverne pour se diriger. Il munit tout le bâtiment d'un bastingage en clé d'osier, rempart contre la vague, et répandit sur le plancher beaucoup de feuillage. Calypso, l'auguste déesse, apporta des toiles pour en faire la voilure, et Ulysse les disposa savamment comme le reste. Il attacha au radeau drisses, cordages et boulines, et put alors le faire descendre sur des rouleaux dans la mer brillante.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
On va essayer d'en savoir plus sur cette aventure du Gypti avec Patrice Pommet. Patrice, comment on passe d'une épave que vous avez retrouvée en 93 sur le chantier du Jules Verne à en fait cette réplique navigante du Gypti, enfin voilà. Nommée Gypti?
Alors il y a plusieurs phases d'études. Donc la première phase d'études consiste à faire le relevé aussi précis que possible des vestiges archéologiques. Et à partir de là, faire une étude archéologique qui consiste à retrouver, analyser la structure du bateau et son système de construction et d'assemblage. Alors en fonction de l'état de conservation de l'épave, ça suppose de travailler beaucoup à partir de l'interprétation des traces et des marques. Par exemple, sur l'épave de JV9, qui est l'épave d'origine de cette restitution, on n'avait qu'une seule membrure en place. Et encore, on n'avait que le fond de la varangue. Et l'analyse du système d'assemblage de l'extrémité de la varangue, on peut déduire la présence des allonges. Et puis ensuite, sur le bordé, on a les empreintes des positions des varangues qui avaient disparu, mais qui avaient laissé leurs marques sur la coque. Donc, en interprétant tous les systèmes d'assemblage et les marques, on peut comme ça, petit à petit, reconstituer la structure du bateau. Il se trouve que par chance, on avait l'enduit d'étanchéité de la résine et tout ça avait permis la conservation des ligatures par endroit. Et donc là encore, on a pu étudier, analyser de façon très précise le système d'assemblage. Et puis en continuant l'examen, on a retrouvé toute une série de traces de charpentiers. Donc avec tous les tracés préliminaires du système d'assemblage, plus des marques de charpentier sur la quille qui sont des marques de construction, c'est-à-dire des différentes phases de la construction du bateau, on arrive comme ça à retrouver la structure du bateau, les systèmes de construction.
C'était des marques qui étaient facilement visibles.
Elles ne sont pas visibles quand on n'y fait pas attention, mais puis quand on les repère, après on sait où il faut les trouver, et à ce moment-là on les observe et on peut les voir. On les voit à l'œil nu si on sait les chercher. C'est toujours pareil, si on sait faire l'observation, après on les retrouve, on les voit, etc. Donc les épaves, on les a trouvées en 93. Dès 95, on faisait un premier modèle échelle grandeur nature, mais une portion de 1 mètre sur 1 mètre, où on a fait les premiers essais de reconstitution du système d'assemblage par ligature. Il y a une phase plus difficile qui est l'interprétation des structures dans les parties disparues, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne ce bateau, tout le système de barrotage, système d'emplanture et tout. Alors là, on a fait appel à des sister ships, d'autres épaves.
Sister ship, c'est des bateaux qui ont les mêmes caractéristiques.
Voilà, ce qu'on appelle un sister ship, c'est un bateau jumeau, ou jumelle, comme diraient les Anglais, parce que pour les Anglais, ship est féminin, qui non seulement c'est le même type, mais c'est les mêmes dimensions, c'est les mêmes, c'est la réplique de celui-ci, quoi, le double de celui-ci. Or, il se trouve qu'on a découvert. Du côté de la presqu'île de Saint-Tropez, dans la baie de Bonporté, l'épave d'un bateau dont les éléments, les membrures qui restaient, les bordées, etc., correspondaient très exactement au point de vue échantillonnage, etc., à celui-ci. Donc, on était vraiment en présence d'un sister ship. Et ce bateau, qui était globalement moins bien conservé, il n'y avait que la partie centrale de la carène, avait néanmoins conservé son massif d'emplanture. Et donc, la restitution que nous faisons là, du massif d'emplanture du bateau vient de l'épave de Bonporté. Mais pour te dire à quel point on était sûr que c'était un sister ship, c'est que quand on a retaillé le massif d'emplanture, on l'a posé et il s'est complètement mis en place sur nos varangues sans rien retoucher. C'est-à-dire que vraiment, on était dans les mêmes côtes. Les seuls éléments ici qui sont totalement interprétés, c'est les deux tillacs, les deux petits ponts d'extrémité avant et arrière, dont on peut discuter. Est-ce qu'ils existaient, ça, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'éléments de preuve. Mais c'est tellement logique, ça a à la fois un rôle structural parce que ça rigidifie la coque aux extrémités. Donc, puis en même temps, au point de vue confort, ça permet de bénéficier d'abri pour ranger trois bricoles, pour les manœuvres de gréement, pour la manœuvre de gouverne. C'est quand même plus agréable d'avoir ces petits tillacs avant-arrière. Tout ça, ça se dit en 5 minutes, mais c'est des années de travail. Parce qu'il faut trouver tous les éléments, faire toute l'étude archéologique, tous les relevés. C'est quand même très long.
Et construire cette réplique de Bigan, c'est une idée que vous avez eue dès le départ, dès la découverte de l'épave ?
Dans les études d'archéologie navale. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est d'étudier les épaves. Étudier les épaves, ça veut dire retrouver leur système de construction, leur structure, leur forme, leur type. Et en somme, c'est déjà proposer la restitution du bateau d'origine. Dans un premier temps, on restitue de façon théorique, sur graphique, sur 3D éventuellement. On contrôle ça par des maquettes, hein, ce que j'ai oublié de dire, dans tout le travail de restitution, on passe à chaque fois par des étapes où on valide sur des maquettes les restitutions que l'on propose graphiquement, jusqu'à s'assurer que ça colle. Par exemple, quand on restitue les formes d'une épave qui est déformée, à partir du moment où on remet en connexion tous les éléments, c'est-à-dire tous les points d'assemblage sont en connexion, on est forcément dans la forme d'origine. Il n'y a qu'une forme possible. Donc ça, c'est une sorte de paradoxe qui veut que plus on a de données conservées, plus la restitution sera fidèle. En même temps, plus elle sera difficile à obtenir, parce que si l'on veut arriver à ce que tous les points soient parfaitement en connexion, ça devient très difficile. C'est pour ça que je distingue toujours trois niveaux de restitution. Il y a les parties qui sont restituées de façon certaine, c'est généralement les parties qui sont fondées sur les vestiges archéologiques même. Les parties probables, qui sont toutes les restitutions fournies par les données comparatives et analogiques. Et puis les restitutions possibles, c'est ce que je racontais à propos des tillacs, des ponts avant-arrière. C'est possible, mais bon, ce n'est que possible. Après, ça peut se discuter. Donc on voit très bien ces trois niveaux de restitution. Et à partir du moment où on dépasse les 75% de restitution possible et probable, on est on peut considérer qu'on est dans un cadre de restitution qui est tout à fait acceptable. Ça, c'est la finalité de nos études d'archéologie, c'est de restituer le bateau d'origine, retrouver son système architectural, son système fonctionnel, retrouver ses conditions de travail et de navigation, d'utilisation, etc. Et puis, ça reste malgré tout un peu théorique. Si on veut dépasser ce stade, il faut passer au stade de la réplique et de l'expérimentation. D'autant plus qu'on est dans un domaine où l'archéologie navale, un domaine fonctionnel et technique, où l'expérimentation technique prend tout son sens. C'est toujours intéressant de vérifier expérimentalement sur une réplique grandeur nature et navigante, voir si toutes les théories sur la construction surbordée, c'est bien gentil, mais encore faut-il le faire. Les systèmes d'assemblage par ligature, c'est très bien, mais il faut voir est-ce que c'est vraiment solide, est-ce que ça fonctionne, etc. Et donc ça, c'est l'intérêt de l'expérimentation. C'est en somme le stade ultime de nos recherches. C'est de vérifier par l'expérience la justesse de toutes nos interprétations. Et en même temps, ça permet de retrouver la logique, la chaîne opératoire, depuis la sélection des arbres, le débitage des pièces, leur façonnage, leur assemblage, la mise en forme. On met en œuvre toute la chaîne opératoire et on vérifie si cette chaîne opératoire, elle est opérationnelle. Et puis, retrouver les gestes et les savoir-faire. Je veux dire, il a fallu apprendre à tailler tous les évidements tétraédriques. Ça, c'est des trucs que personne n'avait jamais fait, y compris les charpentiers de marine, même si c'est des charpentiers de marine aussi expérimentés que Thierry Garval, José Cano, qui sont des charpentiers de très haut bord, de très haut niveau, mais ils n'avaient jamais fait ce genre de construction. Et donc ça, c'est intéressant de voir si on y arrive. Et si on y arrive, c'est que c'était possible, et que si on y arrive en respectant Tout ce qu'on avait déduit de l'analyse des épaves, ça prouve qu'on ne s'est pas trop trompé, on a validé nos hypothèses. Et puis après, il y a toute la partie qu'on fait en ce moment, c'est la navigation, parce que là encore, on navigue avec des gouvernails latéraux, on navigue avec des voiles carrées à cargue, c'est des systèmes qui ne sont plus en usage. Et voir quel est le comportement du bateau, apprendre à s'en servir, voir ce qu'on peut faire avec. Là aussi, il y a tout un champ d'exploration qui est d'autant plus intéressant que par la théorie, on ne peut pas aller très loin. On se dit, le gouvernail, c'est un gouvernail compensé, donc ceci empêche que c'est quand on l'utilise qu'on s'aperçoit s'il fonctionne ou pas.
Peut-être peut utiliser des systèmes de modélisation par informatique.
De toute façon, l'informatique et la modélisation informatique, elle ne te ressort que ce que tu es capable de lui donner à manger. Pierre a apporté dans l'équipe toute la maîtrise des restitutions 3D, parce que moi, mon équipe avant, Michel Rival, Robert Roman, c'est des gens de la génération avant l'informatique, donc c'est des gens qui, les restitutions de lignes et de formes, on les a faites graphiquement. C'est des gens qui savent parfaitement manipuler aussi les maquettes tridimensionnelles, mais pas l'informatique. Alors Pierre nous a apporté cette compétence nouvelle, qui à mon avis est extrêmement profitable et va permettre de s'affranchir et de substituer. Mais pour autant, ça ne remplace pas les maquettes et ça ne remplace pas l'expérience grandeur nature. Et le résultat, c'est que d'abord, on s'est aperçu que toutes nos idées, nos théories, ça fonctionne. C'est-à-dire, on peut construire des bateaux surbordés, on peut assembler par ligature, tout ça c'est cohérent et ça marche. Et puis surtout, la bonne surprise, c'est que quand on avait dessiné le bateau avec ses formes très, très rondes, fond de carène, les varangues, elles sont rondes. On se dit, oh là là, c'est un bateau, qu'est-ce qu'il va ? Il va rouler, il va ceci, il va ceci. Et en fait, il a un comportement qui nous surprend beaucoup, parce qu'il est, c'est un bateau qui est sensible au changement d'assiette. Si tout le monde passe sur le même bord, tu as vu que le bateau, il se fait agiter.
C'est ce qu'on avait failli faire il y a une petite minute, là.
Voilà, exactement. Mais en même temps, une fois qu'il est dans ses lignes, et que plus personne, il est bien équilibré, il est très stable, il ne roule pas.
Oui, et puis on descend le Rhône au portant à 6 nœuds.
C'est un bateau, même tu verras en mer, il se comporte vachement bien. Il attaque très bien la vague, il est très bien défendu sur l'avant. Donc c'est un bateau qui est, je dirais, très sain. Il n'est pas vicieux, c'est un bon bateau. Et ça, c'est un grand plaisir, parce que ça, on ne le savait pas trop. On ne savait pas trop comment il allait se comporter. Et je crois qu'il a surpris tout le monde dans le bon sens.
Là, on est au pont, on fait gaffe, Pierrot.
T'inquiète, j'y suis.
Alors, nous sommes donc au masse du Garde. Le masse du Garde.
On est parti ce matin aux alentours d'Aigues Mortes. Et Béranger, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons à Saint-Gilles. Nous allons passer l'écluse de Saint-Gilles demain.
Demain matin.
Demain matin, à la première heure.
Allez, petite étape tranquille aujourd'hui, je crois.
Oui, c'est pour ça qu'on se crée quelques difficultés en tractant le Zodiac.
Ça,
c'était un petit peu trop facile.
Donc devant moi, j'ai quatre magnifiques rameurs qui prennent le soleil, qui se tartinent le corps régulièrement de crème solaire. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très très beau temps.
Des amarres, les vols ferrés du bâtiment, pour qu'avec l'ouble sur les skins, la vela sec à la rouvée. L'aube est comme une cathédrale, montaudrait d'une loup firmament. Agaccio il pon e lei cala, venga sa cotendra lontan. Interminable, senso d'arrière, senso d'avant, che fa pagare me lo curaggi, che fa pagare me lo san. L'ulaggi te che te masca e ti fa perdere la ragione. Oblida che la mai pulita te spera là di la mezzo. Se la mare è buona e calena du buon custa, veissi la costa, veissi lei quella e l'ulle me della città.
Objectif du jour pour cette étape du 23 avril 2014 sur le Gyptis, rallier Saint-Gilles depuis Aigues-Mortes pour une étape de 8000 sur le canal du Rhône à 7. 8000 qu'on va faire à la rame.
Ils rament comme des calus là. Hier déjà ils nous ont fait faire 250 000 alors qu'on avait que 25 à faire.
Trop puissant, trop de puissance.
Et là aujourd'hui c'est pareil, il va atteindre les 12, 13, 14 nœuds, 15 nœuds. Ils se sentent plus pétés, ils croient qu'ils sont rentrés à Oxford et ça y est.
Je vois pas comment on peut ramer plus vite que nous. Je vois pas.
Non, ça dépend du nombre de rameurs, mais a priori, vu nos essais, s'il y a 4 rameurs, ils avancent à 2 nœuds et demi en moyenne. Ils peuvent monter jusqu'à 3 nœuds. S'ils sont 6 rameurs, allez, on est à 3 nœuds et demi de moyenne et on peut monter à 4 nœuds. Et en fait, c'est vraiment un palier quoi. C'est pour ramer à 3 nœuds et demi, mettons quand on est 6, on est tranquille. On peut faire ça sur de longues distances. Puis pour gagner un tout petit peu en vitesse, là on va se crever comme pas possible et ça va être possible sur des distances très très courtes. Donc du coup on peut dire que voilà, s'ils sont 6, ils rament à 3 nœuds et demi, s'ils sont 4, à 2 nœuds et demi. Et s'ils devaient remorquer un Zodiac,
là il y a de l'acide lactique qui
rentre. Là par contre les Grecs devaient ramer à 2 nœuds.
Parce que l'Égyptis il faisait des sorties de combien de temps?
En fait dans l'épave qu'on avait retrouvée, qui est le modèle, l'épave Jules Verne 9, au fond là, dans la couche qu'on a au fond, on avait retrouvé des petits morceaux de corail rouge. Donc on suppose qu'entre autres activités de pêche, l'Égyptis devait être utilisé pour... Jules Verne 9 devait être utilisé pour la pêche au corail, mais d'autres activités de pêche. Ce qui fait qu'il ne devait pas aller beaucoup plus loin que les rades nord et sud de Marseille. Peut-être vers le... Allez, peut-être jusqu'au Calanque, vers Cassis, la Ciotat, tout ça. Mais dans un espace finalement assez limité, comme on peut imaginer celui des petites... Des petites barques de pêche comme le catalan ou les pointues ou les barquettes avant qu'il y ait la motorisation. Ça peut être des journées, comment dire, des marées qui vont de 1 à 3-4 jours.
Et donc le Gyptis c'est aussi un bateau qui avance à la voile. Quelle vitesse on pourrait atteindre à la voile?
Il atteint des vitesses assez honnêtes en pointe. Une fois, on a fait un 7 nœuds au grand large, entre Frioul et Marseille. Mais c'est pas sa principale qualité. Il n'est pas aussi rapide que ce qu'on pensait. Mais par contre, il est beaucoup plus stable et beaucoup plus sain que ce qu'on imaginait au départ. Il faut s'imaginer qu'il a une forme qui est assez basique. Il ressemble quasiment à un demi-cylindre. Et pour un bateau, c'est une forme qui n'est pas idéale pour la stabilité, pour la navigation sous voile. Et malgré ça, quand on a fait les premiers essais en mer et sous voile, on s'est rendu compte qu'à la fois la construction permettait qu'il soit très très souple, ça on s'y attendait. Et du coup, ça donne finalement une carène qui passe vachement bien en mer. Il est très sain, il est très marin. C'est vraiment ça sa qualité, je pense. Et la vitesse, voilà, si on veut se donner les ordres d'idée, à la voile, on a fait un voyage qui va que à la voile et à la rame, entre Marseille et La Ciotat, qu'on a ramé à peu près 2 heures au début à 2,5 nœuds. Et puis après, sur la partie voile, on a fait quasiment 20 000 à 4,5 nœuds de moyenne, à peu près.
Ouais, c'est honnête.
Ouais, non, c'est honnête, mais vu la longueur et vu que le bateau est très effilé, on aurait pu s'attendre à peut-être des vitesses un peu plus élevées. Mais on l'a jamais poussé non plus. Parce qu'il est cousu, donc on fait gaffe.
Mais est-ce qu'au niveau du gréement et de la voile, vous êtes à peu près sûr de l'avoir construit fidèlement à ce qui se faisait à l'époque?
On sait, de ce qu'on sait pour la restitution du gréement, c'est que c'était une voile carrée. Et on découvre en fouille tous les petits éléments de gréement qui sont en bois. Il y a des petits anneaux pour la cargue, il y a des capes de mouton, ça a des noms toujours un peu bizarres, tous ces éléments-là. Mais qui, en fait, ça donne comme un portrait robot à peu près de la voile. Donc on est à peu près sûr de la manière dont il se la vergue, dont on établit la voile sur le bateau. Mais par contre, il y a une donnée qu'on ne connaissait pas, c'était la grandeur de la voile. On sait qu'elle est à peu près rectangulaire, qu'elle est un peu plus large que haute a priori, ça c'est sur les représentations. On sait là où mettre tous les bouts, tous les cordages, ça c'est sûr aussi. Par contre, c'est pour la taille. Et la taille, on a dû la mesurer. On a fait des calculs de stabilité du bateau. Et on compare à la fois la stabilité du bateau, la grandeur de la voile qu'on va restituer, l'importance de la surface immergée du bateau, et enfin on prend en compte le programme, ce qu'on va appeler le programme de navigation, c'est-à-dire voilà, à quoi il servait à l'époque, donc en l'occurrence à la pêche, et dans quel endroit il allait naviguer, dans la rade de Marseille, donc quels sont les besoins du bateau pour bien travailler, et quel est le moteur adapté.
Et j'imagine quels sont les vents du coin aussi.
Ouais, un petit peu, ouais, voilà, voir la force des vents. Est-ce que c'est un endroit où il va y avoir des vents très très faibles et du coup on va mettre une très grande voile pour avoir un moteur un peu fort? Ou est-ce qu'au contraire c'est un endroit où il y a beaucoup de vent et on va mettre une petite voile pour être sûr de ne pas se retourner? Et c'est en comparant ces trois éléments-là qu'on a décidé de mettre une voile assez grande et qu'on puisse éventuellement réduire un petit peu en cas de grand vent. Mais a priori, comme ça, elle aurait pu être légèrement plus grande, mais déjà dans les rapports de proportions, c'est déjà une bonne grosse voilure.
Et ce dont on n'a pas parlé en parlant de voilure, c'est de sa capacité à remonter au vent, à être au plus près du vent.
Ouais.
Et là, est-ce que c'est... Donc, tu nous racontais hier, bon, on ne l'a pas enregistré malheureusement, mais tu nous racontais hier qu'il arrive à remonter à 70 degrés du vent,
ouais.
Ce qui pour des bateaux modernes est
c'est très moyen.
C'est très très moyen, parce que les bateaux modernes remontent entre 45 et 30 degrés du vent. Mais est-ce que pour l'époque, c'était assez performant?
À l'époque, il faut s'imaginer qu'ils n'ont pas la même conception de la performance. C'est-à-dire qu'on va... Aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin d'aller vite, de vaincre les éléments plus que de composer avec eux. Du coup, à l'époque, ils devaient certainement avoir à remonter au vent avec leur bateau. Mais finalement, au moins sur les grands bateaux de commerce, il va vraisemblablement attendre que le vent soit bon pour partir, ou du moins utiliser les chemins maritimes connus avec les vents adaptés pour aller d'un point à un autre. Sur l'idée même de remonter au vent, en fait, on sait depuis la construction de Gyptis, et même on l'imaginait avant qu'on le construise et vraiment qu'on le teste, que la voile carrée et les bateaux antiques étaient tout à fait capables de remonter au vent. Qui pendant longtemps a été... Certains spécialistes disaient non, mais une voile carrée ne permet pas de remonter au vent, et les carènes étaient trop mauvaises. Et en l'occurrence, déjà avec Gyptis, qui est une carène, bon, qui est cousue, qui est très belle, qui est tout ce qu'on veut, mais qui finalement, dans ses lignes, n'est pas exceptionnelle, avec une voile carrée, arrive à remonter. Et en fait, la limite du bateau pour remonter au vent, c'est pas sa voile, mais c'est sa partie immergée, c'est vraiment la carène. Et donc, on arrive à remonter à 70 degrés du vent sur le fond, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on navigue, on fait du 55-60, mais avec la dérive, tout pris en compte, on fait en réalité 70 degrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que deux siècles après Gyptis, les Grecs commencent à dessiner des bateaux, véritablement, on peut dire que c'est véritablement une conception avant la construction, qui vont avoir des formes de carènes assez belles, qui se rapprochent véritablement dans la qualité de ce qu'on aura au 17e, 18e. Et là, on a le droit de penser que même avec des voiles carrées, parce qu'il y a certains bateaux qui transportaient du blé de Rome à Alexandrie, qui étaient des trois mâts. Et on peut supposer que ces bateaux-là avaient des performances qui égalaient celles des grands bateaux du 18e sans problème. Et pour la peine, oui, la remontée au vent dans l'Antiquité est plus, je pense, était plus effective deux siècles après Gyptis qu'au 6e siècle avant, où là on était encore dans une forme de bateau un peu primaire.
Donc à partir de cette époque dont tu parles, on peut parler du début de l'architecture navale ou il y a eu des dessins comme tu disais avant?
Ouais, bah c'est l'idée, même l'idée c'est de se dire pourquoi pas, en poussant un peu l'idée plus loin. Est-ce qu'un personnage comme Archimède, qui a développé le principe d'Archimède, est-ce que c'est pas un des théoriciens, vraiment des premiers théoriciens de l'architecture navale? Parce qu'il y a un de ses écrits qui nous est parvenu sur le principe des corps flottants, qui est un peu un exercice de style quand on lit, où il y a des tas de petites expériences scientifiques propres à quand on met un objet dans l'eau. Bah, on connaît tous à peu près le théorème d'Archimède. Mais voilà, on se demande est-ce que c'est pas Archimède qui, entre autres, hein, il y a certainement eu d'autres, qui aurait participé à la conceptualisation des principes de l'architecture navale. Et finalement, quand les carènes qu'on retrouve archéologiquement, il y a un bateau notamment qu'on a découvert dans les années 70 et qui a été fouillé dans les années 70-80 au large de la presqu'île de Gien. Il s'appelle le bateau de la Madrague de Gien. C'est un bateau de 35-40 mètres romain et qui, dans sa conception, a rien du tout à envier à un bateau, même, je ne veux pas être présomptueux, mais presque début 19e. Début 19e, milieu 19e. Et là, forcément, pour obtenir ce résultat effectif, il faut forcément qu'à la base, il y a une théorisation de la stabilité sous voile, de la répartition des centres de voilure, de carène, de dérive. C'est des éléments assez compliqués, assez complexes à comprendre, à mettre en œuvre, à mesurer. Et forcément, pour dessiner des bateaux comme ça, ils ont dû passer par une phase empirique, mais aussi par une phase de théorie qui est pas négligeable. Ouais.
Sull'arrivo, un teri è scundi. Sull'arrivo, alla gaccio senza imbruci. Sull'arrivo, l'ucutel alla maa. Sull'arrivo, senti si già munta la fa.
maison commune d'une cassant. Les ménages fins aïeux, les aïeux communes d'une cassant.
Los cannibalos de la plage. L'arrivo, mes filles capitani. C'est l'arrivo, te beau mangiare le benefici. C'est l'arrivo, la cervelos din la sarta. C'est l'arrivo, fan de musico en Brasilia.
Les eaux communes, j'y n'ai qu'à son. Les ménages à fin, ça y est.
Ça y est,
les eaux communes, j'y n'ai qu'à son.
Los cannibalos de la plage. A luz del spegus
sur la riba
negre o blandi lo voglio
sur la riba
jazz de falso digestivo
sur la riba
te fa la supo de las nasio.
Les
eaux
communes, j'y n'ai qu'à son. Les ménages à fin, ça y est. Les eaux communes, j'y n'ai qu'à son. Los cannibales de la plage.
Autour du feu de camp pour le bivouac de cette deuxième étape, ça refait le monde. Et peut-être qu'on peut refaire la journée, parler de cette journée. Comment tu l'as vécu, Guillaume, toi, cette journée?
Elle a très bien commencé avec un petit réveil au chant des oiseaux, pas de moustiques, ça c'était nickel. Puis après, petite navigation toute la matinée, tranquille. On a trouvé un petit agneau. Pauvre petit agneau qui était en train de se noyer, et très très jeune. Et après, voilà, on a continué, on a rendu l'agneau au berger, on a monté notre camp, un feu, et puis une bonne soirée, comme hier soir, comme j'espère qu'il y en aura d'autres.
Bon, on fait des rencontres originales quand même sur, sur cette croisière. Et l'agneau, il t'a touché, Pierre, je crois.
C'est surtout moi qui l'ai touché, je l'ai sorti de l'eau.
Ouais.
Bah je pense qu'il nous a tous un peu touchés là, on l'aurait bien gardé en petite mascotte quand même.
En bon petit gigot d'agneau.
Non, oh, mascotte, non. En mascotte,
en mascotte. En mascotte, mais...
Il serait en train de crever la dalle dans un coin.
Mais voilà, ouais. Il avait l'air très très jeune, avec encore son cordon ombilical et déjà c'était... Mais bon, il y a bien un moment là où il nous a vu arriver avec le bateau, je crois qu'il voyait... Il voyait sa fin approcher petitement et puis finalement non, c'était pas sa fin, c'était Gyptis. Et du coup, il a sauté vers nous dans un élan de comment dire,
élan de survie.
Ouais, dans un élan de survie. Il a fait mal, il s'est jeté à l'eau et on l'a récupéré dans le bateau.
C'est vrai qu'on a vu passer quand même un grand troupeau, plus de 200 brebis avec leurs agneaux. Et puis après le passage de ce troupeau, on a trouvé cet agneau qui était dans l'eau, sur l'autre rive en plus de laquelle on avait vu le troupeau. Donc on ne sait pas comment il a atterri là, mais le gyptis est venu à son secours.
Ils n'ont pas pu être sauvés par le gyptis.
Bon, et au risque de relancer un grand débat sur le monde de l'archéologie, puisqu'on rencontre ces animaux, est-ce que les Grecs et les Romains, est-ce que dans l'Antiquité, ils emmenaient des animaux vivants sur leurs bateaux, peut-être pour les longues traversées?
Bah demain, on arrive à Arles. On va arriver au musée d'Arles. Et dans le musée d'Arles, là, l'an dernier, on a amené au musée un grand bateau de 31 mètres qui est une péniche romaine. Et bah, c'est notamment Béranger qui l'a fouillé, et moi aussi. Et en fait, dans ce bateau, on a retrouvé des traces à l'intérieur qui montrent qu'il transportait des chèvres. Et, ou en tout cas, ouais, des ovins, peut-être des moutons aussi, mais en tout cas sûr que c'était des chèvres. Finalement, on n'est pas si éloigné déjà. La croix, ça devait être...
Elle faisait du transport de où à où?
Bah là, quand on l'a trouvé, le bateau, il transportait des pierres de cargaison entre Tarascon, c'est la carrière de Saint-Gabriel. Et il descendait le Rhône, il a coulé à Arles, et on ne sait pas trop s'il amenait les pierres à Arles ou dans les villas agricoles du delta du Rhône. Il y a les deux possibilités. À l'intérieur en fait du chaland, t'avais des petites traces de coprolite qui montrent bien que...
Ils avaient chié dans le bateau.
Exactement. comme d'ailleurs notre petit agneau qui était apeuré tout à l'heure a chié dans le Zodiac.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on emportait des animaux vivants pour les consommer?
Ouais, certainement. Bah, de toute façon, ils sont assez calés quand même... Ils ramènent par exemple d'Afrique, ils ramènent tout un tas d'animaux vivants assez impressionnants pour les jeux du cirque. Après, on connaît même des bateaux qui sont les hippagos, qui sont réservés au transport des chevaux. Des chevaux vivants. Et donc sur les grands bateaux, ouais, il devait y avoir des vivres de secours encore sur pattes. Mais là j'en sais pas plus.
Ce qui vient, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Ça, il faut reconnaître.
Jeudi 24 avril 2014, on part pour une nouvelle étape. Toujours avec le gyptis en direction de Arles. C'est la grande étape qu'on va faire au musée de l'Arles antique. Avant de rallier Marseille en descendant le Rhône et en retrouvant la mer. Et puis ben, on n'a pas eu trop le temps ce matin de vous rendre compte du programme qu'on allait faire, du programme de la journée, parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres. On a passé l'écluse de Saint-Gilles. C'était une aventure, Guillaume, ce passage d'écluse de Saint-Gilles.
Oui, surtout il faut être bien organisé, éviter que le navire tape trop contre le quai, mais en étant bien amarré. Du coup, les défenses ou les barbattes, enfin, il y a plusieurs termes, sont très utiles. En même temps, un homme va être avec la gaffe pour rapprocher ou au contraire éloigner le bateau des bords de l'écluse.
Là, on est bien avec Guillaume, bien installé sur la poupe au poste de bar, au soleil, sur le petit Rhône. C'est qu'on a passé cette écluse de Saint-Gilles avec succès. Mais il a fallu négocier quand même. Il a fallu négocier pour passer cette écluse. Parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser passer au départ.
C'est ça. Normalement, il faut un bateau à moteur pour passer les écluses. Et vu que le gyptis, le moteur, c'est les rameurs, c'est interdit. Vu qu'il faut un bon vieux moteur à hélice. Du coup, on a dû se mettre à couple avec le Zodiac. Et même là, ça a été du marchandage. Mais au final, ils ont accepté. Par contre, on verra une fois l'écluse de Port-Saint-Louis. Vu que pour l'instant, apparemment, ils sont pas tellement motivé pour nous laisser passer, mais on verra bien.
Voilà, les négociations sont en cours, puisque l'écluse de Port-Saint-Louis, ce sera pour l'étape de demain, comprise entre Arles et Port-Saint-Louis. Pour ce qui nous concerne, en ce 24 avril, on a 8 milles à parcourir à la rame. Enfin, pas totalement à la rame, parce qu'on n'est peut-être pas aussi robuste que les Grecs,
Nous, on se fait une petite pause café en étant en remorque. C'est le Zodiac qui nous accompagne, qui nous tire. Et le café est en train d'être préparé.
Si vous n'avez pas donné des verres, il y en a là.
On en a ici.
Après, c'est café.
Et il manque plus que les clopes.
Et donc en 1993, on découvre les épaves des bateaux grecs de Marseille, à Place Jules Verne. Donc je fais la fouille avec l'équipe d'archéologie navale du Centre Camille Julian, avec notamment Michel Rival et Robert Roman. Et puis ensuite, on fait toute l'étude archéologique pour reconstituer toute la structure du bateau, les techniques de construction, puis... On pousse l'étude jusqu'à la première restitution de l'ensemble des bateaux. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait les deux bateaux grecs plus des bateaux romains. Et en 2000, on a terminé les études de restitution. Et donc l'idée à ce moment-là de faire des répliques navigantes s'imposait, mais le problème, c'est que ça nécessite d'autres moyens, la mise en œuvre, on change d'échelle, quoi. C'est pas les mêmes budgets. Et puis à ce moment-là, le CNRS, le laboratoire d'archéologie qui a vocation à faire toute l'étude archéologique, lui n'a plus vocation pour faire la reconstruction proprement dite. Donc il faut trouver une opportunité. Et Marseille 2013 a été l'opportunité de mettre en place le projet. À ce moment-là, donc, j'obtiens un postdoc du CNRS pour Sabrina qui monte le cahier des charges. Et puis, ensuite, on a eu des années un peu difficiles, avec des promesses de financement pas tenues. Enfin, il a fallu à peu près 4 ans pour mettre en place les financements, les conventions, toute l'organisation de l'opération. Donc, entre 2009, 2010, 2011, 2012, quoi. Et puis, in extremis, on a réussi à tout mettre en place et pour démarrer en 2013 la construction. Et à ce moment-là, Pierre venait juste de terminer sa thèse avec moi, et donc j'ai demandé à Pierre de prendre la coordination de la construction et des navigations.
C'était 2600 ans après, l'Odyssée du Gyptis, première partie, une émission réalisée par Pierrot sur une navigation de Sète à Marseille du 22 au 26 avril, avec Julien.
Allez, on trotte là.
Pierre Poveda, archéologue en charge de la construction et des navigations du Gyptis.
Aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin d'aller vite, de vaincre les éléments plus que de composer avec eux.
Patrice Paumé. Directeur de recherche émérite au centre Camille Julian d'Aix-en-Provence.
On ne savait pas trop comment il allait se comporter et je crois qu'il a surpris tout le monde dans le bon sens.
Béranger.
Je vois pas comment on peut ramer plus vite que nous. Je vois pas.
Et Guillaume.
Un bon petit gigot d'agneau.
Merci également à tous les équipiers croisés à bord du Gyptis pour leur coup de rame. Musique. Extrait de Septembre de Dupin pour le générique. Extrait de Supplique pour être enterré à la plage de Sète de Georges Brassens. Heureux qui comme Ulysse de Georges Brassens. Desamara de Moussu Télé-Joven. Sur la rive, interprété par Laurent Cavalier. Et La mal coiffée. Réécoutez cette émission sur le site de Radio Zinzine, radiozinzine.org. Vous y trouverez également la deuxième partie de cette émission. également disponible sur le site esgourde.net.
Merci à Aurélie d'avoir prêté sa voix pour vous orienter dans cette croisière. Bon vent et à bientôt sur les ondes de Radio Zinzine.